Ok, là je vous donne le nom parce que tous ces bafouillements, là, je me suis référé à plusieurs numéros d'Historia notamment, qui traitent du sujet de dates différentes. Et puis je complète sur Internet, mais juste à la fin, je me réfère à Internet pour avoir quelques dates. Mais pour l'essentiel, c'est des bouquins et notamment des numéros de revues d'histoire. Ici, plusieurs numéros d'Historia, dont un numéro spécial. Alors bon, le premier cadavre exquis, je veux dire, c'est Emanuele Notar Bartolo, hein, donc, qui était gouverneur de la Banque de Sicile et qui fut maire de Palerme, donc à la fin de, juste avant 1900, et qui est exécuté là, c'est dans un train, hein, dans un passage sous un tunnel, par deux exécutants. Voilà. Et son commanditaire, donc Palizzolo, qui utilisait la Banque de Sicile comme une pompe à fric, avant que l'honnête homme, l'incorruptible notaire Bartolo fasse cesser ses pratiques, eh bien, Palizzolo, le député, le fait exécuter et il sera purement et simplement acquitté. Donc là, à l'époque, c'est la corruption totale, y compris de la justice. Donc, je vous parlais de la mafia italo-américaine parce que, on le sait, au début du siècle, c'est la misère en Sicile et 5 millions d'Italiens dans toute l'Italie, hein, vont s'exiler aux USA, hein, en Amérique. L'Amérique, symbole de la fortune, comme une terre promise. Ils seront pour beaucoup déçus, on le sait. Et dans le Mezzogiorno, c'est-à-dire le sud de la Sicile, en grand nombre, ils fuient la misère et ils partent, encore une fois, en Amérique du Nord, aux USA. Et par exemple, entre 1901 et 1913, plus d'un 1 300 000 Siciliens, sur le quart de la population de l'île, s'exilent aux USA. Et donc, bien sûr, ils se regroupent, c'est le communautarisme, dans des quartiers spécifiquement italiens, donc c'est pas que l'intégration au début, on sait que, donc ils se fondent pas dans la masse, ils ont leur propre quartier, on les appelle ces quartiers Little Italy, donc dans les grandes villes, hein, voilà, comme la Nouvelle-Orléans ou New York, ils ont leur quartier, et là, parmi eux, bien sûr, les mafieux siciliens, hein, ou ceux qui vont devenir prendre la tête. Donc cette mafia sicilienne implantée en Amérique, dans ces quartiers-là, eh bien on l'appellera Mano Nera, la main noire. Voilà. En 1900, donc ce sera une vraie puissance mafieuse, américaine, mais d'origine sicilienne, de même qu'on le sait, par exemple dans le milieu, il y a les bandits corses, le milieu algérien, ils gardent leur origine, ils parlent italien, etc., et ils deviennent une vraie puissance face au FBI, et Hoover, qui on sait qu'il va rester, plus de 50 ans à la tête du FBI, le terrible Hoover, lui est assez inactif, hein. Il n'est pas très, il ne saisit pas peut-être vraiment, lui qui sait tout, important, qui lui aussi c'est un personnage terrifiant, quoi, il ne prend pas peut-être la mesure, hein, voilà. Et donc, leur extension sera encore favorisée par la prohibition. On le sait, là, on fera une émission sur le sujet, je vous en parlerai, donc sur la mafia américaine, pure et dure, mais il y a la prohibition, on le sait, vous avez vu pour certains les films de cette époque, comme Les Incorruptibles, vous savez, dans les années 60, où Elliot Ness, le grand, là aussi, incorruptible, lui aussi qui est mort dans son lit, quoi, et qui a fait tomber Al Capone. Eh bien, cette prohibition, c'était interdiction de l'alcool, et donc ça favorisait cette contrebande formidable, et donc qui a propulsé, là aussi, la mafia, l'a rendue très puissante, très riche. Et donc c'était une mafia américano-sicilienne ou italo-américaine, mais elle s'est modernisée, hein, en Amérique, elle s'est ouverte à d'autres populations, notamment d'autres mafias italiennes, et probablement aussi des Américains, quoi, bien sûr. Donc c'est une ouverture, elle n'est pas repliée sur elle-même, elle devient aussi autonome de la tutelle sicilienne, voilà. Donc elle rompt un peu le lien avec la maison mère, si on peut dire, mais il y aura toujours des liens fraternels, d'égal à égal, entre les mafieux américains et les mafieux siciliens. Donc j'ai relaté l'épisode donc, de Mussolini, j'y reviens pas, mais après la guerre, la chute du fascisme en 43-44, et puis le débarquement, il y aura le débarquement donc, américain en Sicile, le gouvernement américain va favoriser, va permettre la réimplantation de la mafia. Et aussitôt que cette herbe, cette mauvaise herbe, on peut la qualifier comme telle, est implantée, elle prolifère à une vitesse fulgurante. Hein, déjà, voilà. Et le préfet Maury, donc, je l'ai dit, il avait gagné une bataille, mais hélas, il avait perdu la guerre, hein, c'est pas de son fait. Et d'ores et déjà, le gouvernement américain avait passé des accords. Ça paraît fou, mais c'est authentique, avec la mafia américaine pour la protection des ports de la côte est, pour protéger les ports contre des possibles attaques nazies, attaques des Allemands, hein, des bombes, enfin, etc., parce qu'il y a les sous-marins, bien sûr, allemands, et déjà ça s'était produit. Hein, et donc, ils assurent la protection, ils assurent le calme, comme toujours. Donc, le gouvernement américain donc s'appuie sur donc c'est Roosevelt et puis ça sera ensuite Truman, donc s'appuie sur ces mafieux hein, locaux pour maintenir l'ordre, la sécurité des ports. Et puis ils vont négocier au nom du débarquement avec la mafia sicilienne et donc aussi bien américaine que sicilienne puisqu'il y a des liens pour le débarquement en Sicile en 1943. En réalité, il sera assez peu utile. Hein. On dit ça, mais bon, on l'a fait sortir, on sort le diable de sa boîte, on le ressort, voilà. Et aussitôt réinstallé, alors bien sûr, en Sicile, il va se mettre à proliférer. Parce que, en fait, pourquoi il est très favorisé? Parce que d'abord, on craint le communisme. L'ours de Staline fait partie des grands vainqueurs. Les PC, Parti communiste, aussi bien en France qu'en Italie, sont très puissants, donc on craint le risque rouge en fait. Et le gouvernement qui va s'installer en Italie, nouveau hein, gouvernement, et les autorités locales, et puis les USA, l'armée américaine donc au premier rang, veulent combattre les rouges surtout, voilà, veulent combattre le communisme, et donc on fait appel à cette mafia qui a été matée par le fascisme, et donc là il n'y a aucun doute, elle est carrément antifasciste, elle est carrément, on va dire, à la droite de la droite, si on peut dire, dans son positionnement. Et donc il y aura une bienveillance, elle va proliférer, puis il y aura même de la corruption aussi, avec l'armée elle-même, les officiers de l'armée vont collaborer aussi bien que les élites locales. Il y aura des détournements sur les fournitures de l'armée, des ventes, du marché noir avec les véhicules, avec la complicité, je répète, d'une partie des officiers. Et puis alors, ils assurent l'ordre, là. C'est de toujours, ils sont le bras séculier. Il y a une agitation sociale, donc à la sortie de la guerre, notamment paysanne, c'est la grande pauvreté. Et puis le communisme, qui est très puissant, on l'a dit, qui fait peur. Et donc, les mafieux sont là, comme une sorte de supplétif, de police supplétive, voilà. Et puis, le gouvernement italien qui va s'installer, la démocratie chrétienne, alors là, carrément anticommuniste, les grands propriétaires, je l'ai dit, les Américains qui sont encore qui vont rester quelques mois, quoi, et bien ils font alliance avec la pieuvre pour se maintenir de l'ordre, voilà. Et donc c'est là le vrai développement de la collusion, d'une collusion durable entre Cosa Nostra et le gouvernement et les autorités locales hein, italiennes et siciliennes de l'île. Notamment dans les marchés publics, par exemple à Palerme, les marchés truqués, hein, ce sont des entreprises de paille, des hommes de paille, si vous voulez, qui captent des marchés truqués, puis c'est la pompe à sous, on pille les finances publiques, et donc, et ça aboutit d'ailleurs à défigurer la ville de Palerme, puisqu'on construit à tout venant. C'est la corruption dans les élections, on achète les voix, et puis il y a bien sûr le trafic comme tout banditisme, l'héroïsme, enfin, etc. Et avec une collaboration avec les cousins américains. Donc c'est une vraie puissance. Il n'y a pas la gloire, mais la puissance, la gloire, ils s'en foutent. Et puis, toutefois, il y aura des guerres fratricides, parce que très puissant, il y aura entre familles, on l'a dit que c'est pas des familles par le sang, mais entre groupes, groupuscules, donc il y aura une première guerre fratricide en 62-63, et notamment avec des victimes collatérales. Par exemple, 7 policiers seront tués, notamment des artificiers, en désamorçant une voiture piégée, voilà. Et puis, le gouvernement italien procéder obligé, hein, parce que ça fait un tel scandale, réagit plus ou moins contre un forcé, parce qu'il a une tendance à la passivité, on le sait, notamment cette démocratie chrétienne et son incarnation à la fois terrifiante et avec une apparence de calotin, qu'on va dire, d'Andréotti qui va survivre, qui est insubmersible et qui est à l'évidence, même s'il n'a jamais pu être condamné, et il est tout à fait affilié à la mafia, il la protège. Donc elle va se mettre en sous-marin parce que c'est une stratégie. Elle n'est jamais aussi dangereuse d'ailleurs que quand elle fait silence. Elle rentre sous terre quand il y a danger, quand il y a une réaction du gouvernement, de la police. On n'entend plus parler, mais encore une fois, le fauve n'est jamais aussi dangereux que quand il se tapit dans l'ombre. Donc une commission d'enquête parlementaire est désignée, qui va fonctionner entre 62 et 76. Hein, voilà. Sans grand résultat, hein, apparemment. Hein, voilà. Deuxième guerre, fratricide, entre familles, 1981-1983, qui fera à peu près 1000 morts. Et donc là, c'est les Corléanais. Corleone, hein, c'est une ville au sud de Palerme. Donc ce sont les Corléanais et leurs autres alliés siciliens qui vont prendre le pouvoir, éliminer les adversaires, les familles adversaires. Alors les dirigeants, ils ont une certaine célébrité. C'est Luciano Ligio, hein, Salvatore Rima, qu'on appelle Toto Rima, hein, et puis Provenzano, Bernardo Provenzano. Donc ils ont été arrêtés récemment, hein, on va dire. Ça, c'est vraiment de l'histoire, c'est de l'histoire quand même, avec un petit H, mais contemporaine, hein. Donc les Orléanais éliminent les autres familles, hein. Alors là, c'est quand même des liens aussi du sang, quand même, hein, qui interfèrent. Hein. Et donc, ce sont des vengeances transversales, en quelque sorte. Et puis, ils éliminent ces Corléanais, les personnalités gênantes, hein, des journalistes, des politiciens honnêtes, des magistrats, des élus. Ils éliminent, hein. On verra qu'il y a quelques victimes célèbres, hein, voilà. Et notamment un député communiste, Pio La Torre, hein, qui est abattu. Donc c'est un autre parmi d'autres, longue liste, hein, c'est de ces 10 cadavres exquis, voilà. Et on va désigner un préfet, le gouvernement contraint et forcé, au milieu de cette lutte fratricide, et après l'exécution de ce député communiste. Hein. Donc, le gouvernement, c'est plus un jeu, hein, ça n'a rien de sincère, c'est pas comme Mussolini. Hein, c'est un peu comme quand ils envoyaient l'armée, ils envoient l'armée. Ça paraît grotesque parce que chacun sait que c'est pas une question d'armée, hein, que s'il faut s'infiltrer, c'est plutôt les services secrets, il faut pénétrer, hein, à l'intérieur. Et donc, c'est un préfet, donc Carlo della Chiesa, qui est désigné préfet de Palerme, et il fut un héros de la lutte contre les brigades rouges, mais on le sait, le gouvernement la joue le rôle de faux cul, il n'y a pas de doute, c'est de la poudre aux yeux, et on l'abandonne à son sort. Il sera tué alors le 3 septembre 1982. Et cette exécution, peut-être l'avez-vous vu, a inspiré le film Les 100 jours de Palerme avec Lino Ventura dans le rôle de... C'est un film de Ferrara, Giulio Ferrara, et Lino Ventura joue le rôle du préfet, du super préfet abandonné. Et probablement Andreotti fut peut-être le commanditaire ou le commanditaire passif de ce crime. Nous y revenons, nous revenons à la suite de notre histoire, terrifiante mais passionnante, après la pause musicale.